Chapitre 24. Comme j'étais malheureux, abandonné dans ces bois d'un noir d'encre, j'en aurais pleuré. Je voulais retourner me jeter dans les bras rassurants de Mrs. Marlowe. Je voulais être à table, avec eux tous, écouter Sophie taquiner ses sœurs et se faire gronder par son père pour ses manières de garçon manqué. Je voulais quitter cette vraie grande bâtisse de pierre qui jetait son ombre glacée sur une vraie pelouse et retourner d'où je venais pour retrouver le petit monde de la fausse maison. Ma jolie maison de poupée. Il n'était pas question que je reste là. Ah ça non. Je n'allais pas moisir dans cette demeure vide et froide où l'on me reléguait au grenier et où des gens effarés me dévisageaient comme si j'étais un fantôme. Je resterais juste le temps d'obtenir de Martha ou de cet étrange jardinier quelques parcelles de vérité sur ma mère. Désespéré, abattu comme un enfant, je n'avais plus du tout envie de tomber sur des inconnus qui saisiraient la moindre occasion pour me manifester leur mépris. Aussi, je décidai de retourner dans la maison, sans traverser la pelouse à découvert, comme à l'aller, mais plutôt par un sentier dissimulé à la lisière des bois. Mais son tracé tournait et virait tellement que bientôt, je ne savais plus du tout où j'étais et qu'il me fallut marcher longtemps avant de revoir un rayon de soleil. Je quittai le sentier pour avancer dans cette direction, me frayant un chemin entre les arbres, à travers d'épais taillis, jusqu'à ce qu'enfin je parvienne dans une prairie dégagée. Maintenant, entre moi et les cheminées de la maison que je voyais au loin, se dressait une haie de hêtre assez haute. En la longeant, je fus surpris de constater qu'elle suivait une courbe. Elle tournait, et tournait encore, de façon à former un cercle parfait, avec une seule entrée, une arche taillée dans le feuillage, avec une petite porte. Un labyrinthe ? La haie était tellement haute que ma mère avait forcément connu cet endroit dans son enfance. Avait-elle parcouru en tous sens des virages trompeurs pour se perdre dans ce dédale de verdure? Désireux de me figurer un peu ce qu'elle avait pu éprouver petite fille, je franchis la porte et me retrouvai plongée dans l'ombre. Les hêtres taillés, hauts comme des falaises, ne laissaient passer ni soleil ni chaleur. Sous mes pieds, la mousse était si épaisse que je marchais sans faire le moindre bruit. Je tournais en rond, plus que j'avançais, car ce grand cirque végétal s'avérait être non un labyrinthe, mais une spirale sans fin. À mesure que j'avançais en tournant en rond, la rangée d'arbres était si élevée de chaque côté que je commençais à me sentir comme une malheureuse fourmi cherchant son chemin dans un terrier de plus en plus profond. Et soudain j'arrivais au bout de cette spirale qui allait en se resserrant, et je me retrouvais dans une clairière. Devant moi, au loin, se dressaient des pierres, deux ou trois assez grandes, de la même forme que les stèles d'un cimetière, et d'autres plus basses, dont une cassée et une dépassant à peine du sol. Quelle étrange réunion! On eût dit que cette paisible clairière était un lieu de rendez-vous où plusieurs vies avaient subitement été pétrifiées. Mais au fil du temps, la mousse avait lentement resserré sa moelleuse étreinte jusqu'à recouvrir l'ensemble. Quelle sorte d'effroi s'empara alors de moi! Je ne sais, mais en un clin d'œil, j'avais fait demi-tour, courant à perdre haleine pour retourner, oui, retourner au plus vite dans le chemin en spirale. Plus il s'élargissait, mieux je respirais, mais je ne me sentis vraiment sûreté qu'une fois revenu sur la grande pelouse, inondée du soleil matinal. Je m'aperçus que je tremblais, encore, de tous mes membres, persuadé que la simple présence de quelqu'un, fût-ce une personne usée par les ans, m'aiderait à me ressaisir. Je retraversai la pelouse au pas de course en direction de la maison et bifurquai au bout pour retourner dans la cour. Martha s'y trouvait, penchée au-dessus d'un panier d'osier contenant un tas de torchons mouillés et tout emmêlés. « Je vais vous aider » ai-je crié avant même de l'avoir rejointe. Cette fois encore, elle me regarda fixement, comme si mon intonation l'avait mise hors d'elle. Toutefois, bien décidée à ne pas me faire rabrouer, je me penchai pour prendre un bon paquet de torchons mouillés. C'est là que le capitaine me trouva, peu après, en train d'étendre le dernier torchon sur la corde en linge. « Ah, te voilà enfin ! Un vrai lève-tôt, ce garçon ! Ce qui n'est pas pour me déplaire, note bien !» M'ayant regardé achever ma besogne, il ajouta « Et en plus, il se rend utile à la cuisine et à la buanderie. Ta pauvre mère t'a fort bien élevé, ma foi !» Je tentai de rassembler mes esprits pour lui signifier que c'était la bonne docteur Marlowe qui m'avait montré comment secouer et tirer du linge mouillé pour l'étendre comme il faut sur une corde, mais il s'était déjà tourné vers Martha. « Daniel et moi allons prendre un petit déjeuner ensemble. J'ai une foule de questions à lui poser. » Son regard se posa de nouveau sur moi, et je remarquai pour la première fois les cicatrices sur son visage. Une longue balafre nacrée en travers d'une joue, et de minuscules trous sur l'autre, comme s'il avait été touché par une volée de plomb. Je me sentis honteux d'avoir été assez mesquin pour penser qu'il me reléguait sans scrupule au grenier. N'avais-je pas devant moi un homme éprouvé dans des batailles navales? Pour lui, ma chambre poussiéreuse sous les combles devait être un endroit follement excitant, un véritable nid de pie. Au fond, sous ses airs revêches, mon oncle faisait de son mieux pour accueillir chez lui un jeune garçon.